Kaiser Karl, de Raphaël Baquet, lu par Audrey Sourdive. Pas d'enterrement, pas de cérémonie non plus, ni défilé devant le cercueil, ni larmes, cette faute de goût. Plutôt mourir, a-t-il drôlement dit. Je veux juste disparaître comme les animaux de la forêt vierge. Voilà que pourtant des policiers en civil et des gardes du corps de société privée se sont postés, tous les 15 mètres, sur le chemin que doit emprunter le corbillard. Déjà, une file de limousines noires attend devant le crématorium du Mont-Valérien. Ces chauffeurs en costume slim, ces mannequins qui remontent l'allée perchés sur leurs talons, ces patrons propriétaires des grandes maisons de couture qui se hâtent, on croirait une fashion week funèbre. Quelques minutes auparavant, un petit groupe d'intimes s'est réuni devant le cercueil noir, ouvert. Karl Lagerfeld était là, étendu et raide sur les coussins de satin blanc, avec ses lunettes noires et ses cheveux poudrés. Il aurait détesté être ainsi exposé, avec ce teint cireux des cadavres et cette panoplie qui lui a si longtemps tenu lieu de masque dans le monde entier. Mais c'est le lot des morts. Jusque-là, il régnait sans partage sur la mode, et ni ses actionnaires ni ses collaborateurs n'auraient osé le contredire. Maintenant qu'il a disparu, on lui désobéit déjà. La direction de Chanel, qui a décidé l'ordonnancement de la cérémonie, n'a pas osé complètement s'affranchir cependant. Quelques 200 personnes ont été conviées, par un carton d'invitation, comme pour une fête. Mais il n'y a ni fleurs ni couronnes. Pas de messe non plus. Karl aimait la pompe majestueuse des cathédrales, mais il était athée, souffle une amie. L'endroit est sinistre et laid. Sans les décors grandioses, les bouquets et les lumières qui ont servi d'écrin ces dernières années au défilé du couturier. Dans cet entre-deux mi-mondain, mi-sobre, les invités ont été placés selon cette subtile hiérarchie sociale qui correspond si peu à la fabrication d'une robe. Au premier rang, Alain Wertheimer, le propriétaire de Chanel, et de l'autre côté de la travée, celui de LVMH, Bernard Arnault, accompagné de deux de ses enfants, Antoine et Delphine. Caroline de Monaco et Anna Wintour, la grande prêtresse de la mode, Inès de la Fressange et Baptiste Giabiconi, le mannequin préféré de Lagerfeld, sont derrière. De Hambourg, la ville natale de Karl, est arrivée Florentine Pabst, l'amie la plus ancienne du couturier. Dans la petite foule, on reconnaît à peine Virginie Viard, cette styliste restée 20 ans dans l'ombre du maître. Nommée quelques heures après sa mort pour lui succéder, elle n'ose pas encore sortir dans la lumière. Derrière l'aéropage de célébrités, enfin, voici les premières d'atelier. Elles ont passé tant d'heures, un genou à terre, à piquer des épingles dans des étoffes sublimes. Elles seules connaissent le labeur d'artisan pour dessiner une collection et faire fleurir d'un rouleau de soie une blouse floue et légère. Plusieurs d'entre elles pleurent. Mais elles ne sont qu'une poignée dans les travées. La plupart des ouvrières de la haute couture n'ont pas été conviées. C'est une cérémonie étrange. Rien ne ressemble aux défunts. Sinon peut-être ces vers de la poétesse française Catherine Pozzi, traduits en allemand par Lagerfeld, que la princesse Caroline a choisi de lire avec un accent parfait. C'est le risque lorsqu'on s'interdit de penser à la mort. Le couturier n'a laissé aucune consigne, sinon son refus des funérailles et cette la palissade qui semblait claquer comme un ordre. Quand c'est fini, c'est fini. Jusqu'au bout, sa disparition est restée taboue. Même ce mardi matin, 19 février 2019, où le styliste s'est éteint à l'âge de 85 ans dans une chambre de l'hôpital américain à Neuilly, où il avait été transporté la veille, son entourage a paru pris de court. Karl Lagerfeld est mort aux côtés de Sébastien Jondot, son bodyguard et homme de confiance, et le monde florissant de la mode s'est retrouvé tétanisé. Il a fallu plusieurs heures de conciliabule, rue Cambon, avant de confirmer le décès du couturier. Comment mieux dire combien la disparition du dernier empereur de la mode paraît sacrilège? Quelques mois auparavant, lorsque j'avais commencé à me documenter sur lui pour une enquête dans Le Monde, je m'étais heurtée à la même terreur. Ce n'est pas pour une nécrologie, n'est-ce pas? C'était effrayé ses collaboratrices. Même le puissant Bernard Arnault, avec son allure froide de squale glissant dans les profondeurs, avait vivement confirmé que Lagerfeld disait vrai. Chez Fendi, propriété de LVMH, dont Karl dessinait les collections de fourrures depuis 1965, le contrat était à vie. D'un coup de dent, le redoutable patron de LVMH avait déchiqueté toutes les rumeurs de succession en s'écriant « Je ne veux pas l'envisager. D'ailleurs, nous n'en parlons jamais. Le seul cas semblable à celui de Karl, c'est le pape, vous savez. » Pape, empereur, Kaiser, et pas une biographie. C'est ce qui m'a d'abord frappé. Cet homme au carrefour des cercles du pouvoir, de l'argent, des médias et de la mode est resté parfaitement secret. On ne peut pas dire pourtant que son visage, son allure, son accent soient inconnus du monde. Des années auparavant, lors d'un reportage au fin fond de la Chine, alors que je m'étais perdue, j'avais été secourue par un paysan au volant d'une vieille guimbarde. Son visage était parcheminé, il portait un bleu de travail usé, nous parlions par gestes. Épinglé sur le revers de sa veste, brillait cependant un pin's incongru. J'avais aussitôt reconnu la silhouette fine, les lunettes noires et la queue de cheval blanche. Mais cette icône clinquante jusque dans les campagnes chinoises était un mystère. On l'identifiait partout, et partout, il avait empêché qu'on sache vraiment qui il était. Lagerfeld lui-même, lors de notre rencontre, sembla sur ses gardes. Après des mois de négociations, il apparut un soir, avec ses mitaines, ses bagues, deux ou trois à chaque doigt, une broche de Suzanne Belperron épinglée à sa cravate, bref, tous les accessoires de la marionnette dont je tire les ficelles, comme il disait. Pour montrer sa bonne volonté, ou peut-être m'égarer d'emblée, il avait ôté ses lunettes noires. Son regard brun était à la fois sarcastique et doux. Moins impressionnant, en tout cas. Il parlait avec ce phrasé rapide et cet accent d'aristo-allemand si particulier que tous ceux que j'ai interrogés par la suite se sont mis immanquablement à imiter. Mais il brisa vite mes illusions. 3 heures durant, il fit assaut d'anecdotes charmantes, puis conclut avec une sorte de cri du cœur ravi. De toute façon, tous ceux qui connaissent mon histoire sont plus ou moins au cimetière. Il s'est trompé. Ils sont encore nombreux, ceux qui ont croisé la route de cet homme, avant qu'il ne devienne un acteur entièrement pénétré de son rôle. Beaucoup n'avaient qu'un petit bout de l'histoire. D'autres ont attendu qu'il meure pour parler enfin sans le craindre. Il a fallu revenir sur ses traces, relire la légende qu'il avait façonnée pendant 60 années, comprendre ce qui avait fait d'un fils de la bourgeoisie allemande, né pendant la guerre, le modèle de l'industrie du luxe et de la mode mondialisée. Et peu à peu, le puzzle s'est assemblé.